Jette ton pain sur l'eau et il te reviendra. Ce verset, ce premier verset du chapitre 11 du livre de l'Ecclésiaste, nous donne d'une manière très appropriée, très juste, le sens de l'évangile d'aujourd'hui et de la première lecture. Jette ton pain sur l'eau et il te reviendra. Il ne s'agit pas de nourrir les canards, quoique. Il s'agit de ne pas garder le petit quignon de pain que l'on a pour le manger soit tout seul, mais d'investir, de faire du commerce, de le mettre sur les bateaux, d'aller, de venir et de pouvoir faire fructifier le don que nous avons, le potentiel que nous avons. Ici, Jésus raconte cette parabole. Et écoutez un peu, il faut faire quelques petites adaptations parce que la traduction ici nous enferme dans une vision de Dieu comme un maître qui est un peu tout puissant et qui règle ses comptes et qui décide de tout. Or, ce n'est pas exactement ce que dit le texte. Un homme partit au loin et pour une grande période. Alors, il confie à ses serviteurs des talents. Le talent, ce n'est pas simplement j'ai le talent de jouer de la guitare, du piano, de clarinette ou de je ne sais pas quoi. C'est une somme d'argent, un capital. Et ce n'est pas rien du tout. Rien qu'un seul talent, ça, c'est 26 kilos d'or. Ça représente à peu près 17 années de salaire d'un ouvrier à l'époque. Donc, déjà un talent, c'est déjà un peu confortable. Qu'est-ce qui se passe? Ici, on nous parle du royaume. Le Seigneur, il nous donne. Et il s'en va. Alors, et il donne à chacun. Il donne de son propre bien, parce que le mot ici, il dit ses biens, il confie à ses biens, ses biens propres. Et à chacun suivant sa propre force. C'est vraiment adapté. Aussitôt, sans attendre, le premier qui a 5 talents, il s'en va et il en fait fructifier. Il en gagne 5 autres. Le deuxième, pareil. Alors il se passe quelque chose d'extraordinaire. Il avait 5 talents, il en a fait fructifier 5. C'est-à-dire qu'il a égalé son maître. Il a fait fructifier, il n'est plus serviteur, il est devenu maître. Celui qui a 2 talents, c'est la même chose. Et même s'ils ont reçu et qu'ils ont des conditions, des grâces différentes, des capacités différentes, ils sont égaux avec le maître et aussi entre eux. Et n'allez pas me dire, oui, mais il vient régler ses comptes. Non, je m'excuse, il faut retourner au texte, c'est tout à fait étonnant. Il vient et ils font le compte-rendu, il ne règle pas les gueules, mais il dit, vois, regarde. Et l'autre, il prend des nouvelles, comment allez-vous, etc. Il ne vient pas récupérer son bien. On ne le demande pas. D'ailleurs, si vous voulez voir pour comprendre, il ne récupère pas le bien puisqu'il lui dit, il ne présente pas les 5 talents qu'il y avait avant, il présente les 5 nouveaux. Et l'expression du maître le montre encore plus, puisqu'il dit très bien, serviteur bon et fidèle, fiable, en qui on peut faire confiance, comme la femme vaillante, la femme valeureuse, hein, on peut lui faire confiance, elle fait fructifier le bien de la maison. Et surtout, entre dans la joie de ton Seigneur. Et le mot qui est employé pour la joie, c'est un mot qui peut se traduire joie, mais qui se traduit aussi grâce, charis. Entre dans la grâce de ton maître. Voilà le projet de Dieu avec l'homme. On se croirait au début du livre de la Genèse. Voilà, tout ce qui est là, c'est à toi. Il y a juste une petite interdiction, une petite limite. Mais tout est à toi. Et le désir de Dieu est de nous donner sa vie divine. Vous connaissez l'adage, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Non pas pour qu'on se prenne pour des dieux, hein, mais pour que cette vie, cet amour, cette capacité de communion, c'est-à-dire que cette aspiration au bonheur, elle trouve son épanouissement dans notre vie. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a le troisième serviteur. Et le troisième serviteur, il ne fait pas comme les autres. Il n'a pas compris, il n'a pas cru à celui qui était, que Dieu était vraiment le donateur. Il n'a pas cru qu'il était le destinataire. Il n'a pas cru au don. Il ne croit tellement pas au don qu'il est en train de dire au Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. Ben, c'est quand même étonnant parce qu'il viendrait il y en a de donner sa fortune. Comme l'autre jour, avant de prendre le train dans la voiture, j'entendais aux nouvelles le patron à Nantes qui a donné son entreprise à ses salariés pour qu'ils deviennent eux-mêmes les maîtres et fassent fructifier l'œuvre. Mais lui, il n'a pas cru. Non, c'est pas possible. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Adam, alors qu'il a mangé avec Ève le fruit de l'arbre, et Dieu le cherche dans le jardin, et il dit, j'ai eu peur, et je me suis caché. Il y a quelque chose qui cloche. Je savais que tu es un homme dur. Je te connais. Et ça, je ne sais pas si vous avez entendu des gens déjà vous dire « Oh, toi, je te connais ». En général, même toujours, après viennent des choses super négatives. Parce que on a enfermé l'autre dans ce qu'on pense de lui, dans un acte, dans une parole, dans des opinions, dans une réaction. Parce que nous mesurons avec notre mesure, et non pas avec la mesure du Seigneur, avec la mesure de la foi. Si je réduis l'autre à ce que je connais, je suis en train de faire une chose, la même chose qu'Adam, la même chose pour laquelle il y avait l'interdiction dans le jardin de manger le fruit, ne pas réduire l'autre à ma dimension, comme dit Lita Basset, apprendre à aimer sans manger l'autre, faire qu'il devienne moi, qu'il pense comme moi, qu'il fasse comme moi, qu'il serve mon intérêt, etc. Si je suis juste avec ce que je connais de l'autre, je vais être exactement comme ce serviteur, paresseux, mauvais, peureux, pusillanime. Alors que je suis amené à croire, à faire confiance, à rentrer dans ce dialogue de confiance dans lequel nous sommes appelés à vivre. Une autre chose, dans la remarque, la réponse que lui fait le Seigneur, c'est tu aurais pu au moins porter l'argent à la banque. Parce que des fois, il y a des circonstances où nous ne nous sentons pas capables, nous n'avons pas dépassé les ténèbres quelquefois qui nous entourent ou qui nous envahissent. Mais alors le Seigneur suggère, mais tu pourrais demander l'aide d'un tiers. Et combien de fois on se réfugie simplement, non c'est moi qui sais, je dois régler tout, etc. Tu pourrais demander l'aide d'un tiers, il y aurait eu moins des intérêts. Tu serais rentré quand même dans ce mouvement de faire fructifier ce que tu as reçu. La parabole termine d'une manière qui nous choque un peu. Je vais mettre dehors et enlever lui ce qu'il a. Ça reprend tout simplement le texte de la Genèse où on voit Adam et Ève expulsés du paradis. C'est-à-dire expulsés de cette condition divine dans laquelle le Seigneur veut nous établir, de cette communion divine dans laquelle il veut nous faire vivre. Et il est livré aux ténèbres extérieures. Il y a des pleurs, des grincements dedans, alors là, on ne comprend plus de rien du tout. Ben, il y a déjà un progrès. C'est en livrant aux ténèbres extérieures, les ténèbres sont déjà à l'extérieur de lui, alors qu'avant, elles étaient à l'intérieur et elles le mangeaient. Donc c'est déjà un chemin un peu plus long, mais pour retourner au Seigneur. Et dans ces ténèbres, nous retombons dans la leçon de la deuxième lecture, où grâce à la venue de Jésus, au don de Jésus qui est rentré dans notre monde, qui a pris sur lui notre humanité, aussi avec tous ses défauts, jusqu'à porter les douleurs et le péché de l'homme sur la croix, en offrant, il nous dit une chose. À nous qui, quelquefois, qui quand nous lisons cette parabole, souvent nous pouvons nous identifier avec cet homme et notre condition humaine, où nous sommes. Il nous dit, oui, vous êtes dans les ténèbres, mais vous n'appartenez pas aux ténèbres. Il faut redire et rechanter cet admirable chant de Thésée, hein, Jésus, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler, ne me laisse pas séduire par ces ténèbres. Comme va le dire la nouvelle traduction de l'avant-dernier verset du Notre Père, qu'on prendra dans 15 jours, et bien, ne me laisse pas entrer dans le jeu de la séduction, de l'épreuve et des ténèbres, de la tentation. Laisse pas entrer. Durant la semaine, nous avions un texte de l'évangile de Saint-Luc qui rappelait la parole de Jésus qui dit, vous souvenez, au temps de Noé, c'était comme aujourd'hui. On mangeait, on buvait, on se mariait, on faisait des affaires. Et puis est venu un temps de catastrophe, le déluge. Et tout s'est cassé la figure. Au temps de Lot, c'était parfait. On mangeait, on buvait, on consommait, on achetait, on vendait, c'était super. Et puis est venu le feu du ciel, et puis... Et ce que nous dit saint Paul ici, c'est ce que nous dit Jésus et saint Paul, les deux. Veillez, soyez attentifs. Ne vous laissez pas prendre simplement dans le quotidien, dans le monde, dans cette nuit, dans ces ténèbres. Alors on voit même plus que c'est les ténèbres d'ailleurs, parce qu'il y a tellement d'électricité qui marche bien qu'on ne s'en aperçoit pas. Hein. Mais soyez vigilants. Parce que le Seigneur vient comme un voleur. Le jour du Seigneur vient comme un voleur, c'est-à-dire, il vient le jour où on ne s'attend pas. Et dans notre vie, c'est quelque chose d'étonnant, dans notre vie chrétienne, c'est quelque chose d'étonnant. Parce que c'est vrai, cette profondeur du cœur, cette capacité, cette confiance que nous fait le Seigneur, c'est vrai que très souvent nous n'avons pas confiance, nous n'avons pas conscience, pardon. Mais il suffit quelquefois d'un événement, d'une rencontre, d'une maladie, de quelque chose qui nous remette dans l'essentiel et apparaît cette flamme, cette lumière intérieure que le Seigneur a mis dans notre cœur. Et Jésus dit, mais poursuis-la, avance, jette ton pain sur l'eau et il te reviendra. Et tu pourras porter du fruit en abondance, ce que Jésus ne cesse dans l'évangile de Saint Jean de nous rappeler. Parce que nous sommes faits pour porter du fruit. Amen.